La révolte bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan.
Camus et le terrorisme.
Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans, au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Il leur a fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ainsi parlait, recevant le Nobel de littérature en décembre 1957, Albert Camus. Il parlait de sa génération qui n'avait pas besoin de dessin pour imaginer ce qu'était la violence et l'horreur. Ève Morizy, bonjour.
Bonjour.
Je ne vais pas dire quand vous êtes née, mais vous êtes presque la génération Y. Il y a je ne sais combien de générations entre celle de Camus et la vôtre. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Camus? La façon dont il se conduit?
La façon dont il se conduit, avec une droiture et un courage politique certain, qu'on soit d'accord ou non avec lui, et une écriture limpide et forte à la fois.
Alors vous avez déjà beaucoup publié en anglais et en français sur Camus. Vous enseignez à Oxford pour toujours, dites-vous, enfin sûrement pour longtemps. Et vous mettez la dernière main à une anthologie de textes sur Camus et le terrorisme. Vous n'avez pas encore cherché d'éditeur, si jamais l'un d'entre eux prêtait l'oreille à notre émission, qu'il sache que vous avez, avec l'autorisation de la famille, un certain nombre d'inédits de Camus dans votre besace. Dans votre introduction, parce que moi j'ai eu la faveur des premières ébauches du texte, vous expliquez que le mot terrorisme, Camus, le perçoit dans une pluralité de sens.
Absolument, le terrorisme est une notion assez floue dont les contours varient en fonction du locuteur, de ses convictions politiques, d'un contexte culturel et spatio-temporel. Et Camus entend lui aussi le terrorisme de manière plurielle, ça peut être le terrorisme d'État, dont il est plus que familier, comme on vient de l'entendre avec le discours du Nobel de 57, ce qu'il nomme les fascismes, le nazisme, le fascisme, le stalinisme, le joug du franquisme, lui sont familiers, d'une part, et puis le terrorisme dit d'en bas, le terrorisme clandestin, est quelque chose qu'il connaît également, notamment à travers la guerre d'indépendance algérienne.
Et puis aussi le nihilisme russe, on examinera brièvement ces trois notions différentes du terrorisme. La terreur d'État, il est à une époque, dit-il, 1957, la même année que le Nobel, réflexion sur la guillotine, où les lois sanglantes ensanglantent les mœurs, ce n'est plus tant contre l'individu que notre société doit donc se défendre, que contre l'État, dont la responsabilité dans l'application de la peine de mort, par exemple, a pris des proportions astronomiques.
Tout à fait. La peine de mort recoupe en partie les réflexions de Camus sur le terrorisme, puisqu'il s'agit de légitimer, d'institutionnaliser le meurtre, et c'est la légitimation du meurtre qui préoccupe Camus sa vie durant, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Donc ces réflexions sur la guillotine problématisent cette légitimation systématique du meurtre, puisque la violence telle que Camus la conçoit, si elle est parfois nécessaire, n'est jamais systématiquement justifiable et doit toujours être contenue dans les limites les plus restreintes, ce qui exclut le meurtre institutionnalisé qu'est la peine de mort.
J'indique à l'auditeur, et puis à l'éditeur qui a peut-être tendu l'oreille, que vous avez déjà publié une anthologie Camus la peine de mort. Alors, il en parle au fond dans Caligula, de la terreur d'État. C'est un texte de 1938, Caligula qui a été représenté au théâtre en 1944 seulement.
Fait. Et retravaillé ensuite, absolument. C'est la figure de l'empereur assassin, mais c'est aussi un terroriste à qui se posent des problèmes métaphysiques. La figure de Caligula est donc assez complexe.
Parce qu'il y a le débauché qui exécute, qui n'exécute pas, pardon, le débauché qui ne tue personne, donc ça c'est pas très gênant. Il y a le puritain qui exécute, alors ça c'est bien pire. Puis alors le puritain qui exécute, ça c'est le libertin, le débauché qui exécute. Je vous vois lever le sourcil, ça, il y a rien de pire. Nous sommes un peu plus loin dans le texte qui va fonder, avec la rédaction en chef de combat, sa célébrité après-guerre. Nous sommes dans la peste.
Vous n'avez jamais vu fusiller un homme ? Non, bien sûr. Cela se fait généralement sur invitation, et le public est choisi d'avance. Le résultat est que vous en êtes resté aux estampes et aux livres. Un bandeau, un poteau, et au loin quelques soldats. Eh bien non. Savez-vous que le peloton des fusilleurs se place au contraire à 1,50 m du condamné ? Savez-vous que si le condamné faisait 2 pas en avant, il heurterait les fusils avec sa poitrine ? Savez-vous qu'à cette courte distance, les fusilleurs concentrent leurs tirs sur la région du cœur et qu'à eux tous, avec leurs grosses balles, ils y font un trou où l'on pourrait mettre le poing ? Non, vous ne le savez pas, parce que ce sont là des détails dont on ne parle pas. Le sommeil des hommes est plus sacré que la vie pour les pestiférés. On ne doit pas empêcher les braves gens de dormir. Il y faudrait du mauvais goût. Et le goût consiste à ne pas insister. Tout le monde sait ça. Mais moi, je n'ai pas bien dormi depuis ce temps-là. Le mauvais goût m'est resté dans la bouche et je n'ai pas cessé d'insister, c'est-à-dire d'y penser.
Je m'en résigne.
On est là, au cœur du roman, dans une scène assez importante où Tarrou explique à son ami Rieux, le docteur Rieux, ce qui l'a conduit à s'opposer à la peste et ce que signifie la peste. Et la peste signifie, par le truchement de l'allégorie qui est donc au cœur du roman, tout ce qui, comme le dit Tarrou, de près ou de loin, fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir. Et dans son cheminement, Tarrou est arrivé à la conclusion que, tout en voulant être un saint sans Dieu, comme il le dit, il s'opposera quoi qu'il arrive à la mise à mort des autres, qu'il s'agisse d'une mise à mort directe ou indirecte. C'est le principe qu'énonce Camus dans son journalisme d'après-guerre aux alentours de 48, de sauver les corps. C'est-à-dire, on ne prétend pas à grand-chose, sauf à un impératif catégorique qui est de sauver la vie d'autrui.
La peste, c'est le nom d'un personnage dans ce qui est présenté comme une adaptation théâtrale du roman, qui est joué par Maria Cazares notamment. C'est une pièce qui s'intitule « L'état de siège » où on voit un général dire... Il arrive dans la ville de Cadix, que jusque-là un peu heureuse, quoi, tranquille. Eh ben ça suffit maintenant, chacun meurt jusqu'ici dans son lit, ce désordre va être administré, une seule mort pour tous, et selon le bel ordre d'une liste, vous aurez vos fiches, vous ne mourrez plus par caprice, le destin désormais s'est assagi, il a pris ses bureaux, vous serez dans la statistique, vous allez enfin servir à quelque chose, et puis en plus vous serez incinéré, c'est plus propre, et ça fait partie du plan.
Tout à fait. Dans cette pièce allégorique, elle aussi, Camus fait une sorte d'anatomie de ce qu'il appelle le décharnement, c'est-à-dire la mise à mort administrative, anonyme, sans souci de la réalité, de l'épaisseur des êtres. Et cette espèce de mécanique administrative qui écrase et qui ignore les individus et leur humanité est vraiment ce que Camus a en horreur après-guerre. Et c'est la leçon qu'il tire, cette désincarnation et ces dangers de la Seconde Guerre mondiale.
Alors le général de la peste, mais aussi bien l'écrivain désincarné, qui tient des propos abstraits et qui hurle à la mort, alors qu'il n'a jamais tenu un fusil d'exécution.
Absolument. C'est ce que Camus reproche à certains intellectuels de gauche de sa génération, et il le fait notamment par le truchement de la pièce « Les Justes » dont on parlera plus tard, c'est de ne pas s'opposer à des politiques qui tolèrent, voire encouragent le meurtre de masse, et ne pas prendre en considération les êtres de chair qui se font abattre avec le soutien de ces idéologies, de ces politiques.
Les Justes, ça se passe en Russie. Un grand écrivain russe fait l'admiration de Camus, c'est Dostoïevski, parce que lui, Dostoïevski, quand il a été arrêté pour tentative d'attentat contre le tsar, il a fait l'objet d'un simulacre d'exécution. Lui, il peut parler de la mort et de l'exécution, il a failli la vivre.
Tout à fait. Et Dostoïevski lui-même a lu un livre que Camus connaît assez bien, un livre de Hugo qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné ». Et quand il relate Dostoïevski à son frère cette expérience de mort, de ce qu'il croyait être sa mort imminente, il se tourne vers les paroles de Hugo, le cri du condamné à mort qui importait aussi au plus haut point pour Camus.
Et juste, ça se passe dans une époque un peu postérieure à celle de Dostoïevski. Nous sommes au début du XXe siècle chez les socialistes révolutionnaires. Ils veulent toujours attenter à la vie du tsar ou bien des grands-ducs. Le grand-duc Serge, ainsi, est visé par l'organisation, avec un O majuscule, socialiste et révolutionnaire. Janek est chargé de tuer le grand-duc Serge. Il arrive à remettre sa bombe. Il va jeter sa bombe sur la calèche du grand-duc, mais voilà qu'il y a, avec leurs petits visages sérieux et leurs mains sur les genoux des enfants, dans la calèche du grand-duc. Et
l'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc.
C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner les enfants.
Janek a raison, ceci n'était pas prévu.
Il devait obéir.
Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Alexis.
Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Janek. Mais je ne suis pas sûr de moi. Mes mains tremblent.
Dora.
J'aurais reculé comme Janek. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire?
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Êtes-vous fou?
Dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu le sais bien.
2 jours où nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même.
Alors je pars!
Attends! Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant?
Je le pourrais si l'organisation le commandait.
Pourquoi fermes-tu les yeux?
Moi? J'ai fermé les yeux?
Oui.
Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause.
Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que les enfants fussent broyés par nos bombes.
Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera.
Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière.
Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage.
Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier pour qui tu luttes refuse que ses enfants soient tués, faudra-t-il le frapper aussi?
Oui, s'il le faut.
Stéphane, c'est Michel Etcheverry. Nous sommes dans une version comédie française. Et Dora, qu'on a entendu, Janek, qui a renoncé à jeter la bombe, ce sont quoi, des meurtriers trop délicats?
Des meurtriers délicats tout court, dit Camus dans un article de 48. Ce qu'il entend par meurtrier délicat, c'est un meurtrier qui sait la nécessité de l'assassinat politique qu'il va perpétrer et en même temps son inacceptabilité. C'est le cas de Janek qui, avec Dora et d'autres membres de l'organisation socialiste révolutionnaire, décide de d'imposer des limites strictes à l'usage de la violence. On ne peut tuer l'enfant et la femme et le civil, mais on peut tuer le seul représentant politique dès lors qu'il est despotique. Et ces personnages s'opposent en chorale au personnage de Stéphane, qui lui est une invention de Camus, n'est pas une figure historique, même si on devine dans Stéphane le nihiliste ultime, qui pense, lui, qu'il n'est pas nécessaire de restreindre la violence, qu'il faut tuer tous ceux qui se mettent en travers du chemin de la révolution. On a donc là deux visions d'une violence légitime qui s'oppose, et Camus donne très clairement sa préférence aux meurtriers délicats. Même si il n'est pas forcément d'accord avec eux jusqu'au bout, le meurtrier délicat, dit-il, souhaite mourir après avoir tué parce que son meurtre est aussi inacceptable pour lui-même qu'il est nécessaire. Et Camus précise que une vie ravie ne vaut pas une vie donnée.
Et évidemment, cette pièce date de 1949, elle va accroître la rupture avec le Parti communiste qui continue de soutenir Staline, alors que dans L'homme révolté, un livre qui va suivre, Camus dit que la révolte bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan. La justice et la souffrance, ça demeurera, explique-t-il, malgré les grands projets d'unité utopique de Dostoïevski, il l'avait déjà bien dit.
Absolument. Si je peux juste ajouter une chose, c'est que Les Justes, qui fait référence à un ensemble d'événements qui se déroulent en 1905 en Russie, malgré ce cadre chronologique de 1905, du début du 20e en Russie, est un moyen pour Camus de parler de ses contemporains, et notamment de ceux qui soutiennent une certaine violence soviétique. Et il écrit « Deux races d'hommes L'une tue une seule fois et paie de sa vie, l'autre justifie des milliers de crimes et accepte de se payer d'honneur.
Le dossier algérien, maintenant, Ève Morizi, qui va tenir une place importante dans votre anthologie Camus et le terrorisme à venir. Alors, on sait que Camus est un enfant de l'Algérie, on ne va pas raconter ce qu'il a écrit sur la Kabylie et la misère que connaît alors l'Algérie, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Là, juste un éclat, un moment heureux, une sorte de karaoké dans un hôtel où sont réunis des intellectuels algériens et des écrivains français, comme Louis Guillou, qui sera le héros de notre émission de demain, comme Albert Camus. Nous sommes près de Blida, et ces gens qui échangent, ben, ils chantent aussi. Cette chanson, peut-être que Camus y était sensible, il y est question d'hôpital.
À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Le médecin en chef passe devant tous les lits. Le numéro 13, qu'est-ce qu'elle a, cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je sonde vos blessures. Deux coups de couteau, près du cœur, y a plus de sang. Non, pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement tout de même faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ainsi chantaient ensemble, peut-être pas aussi bien Caniflore, Louis Guillou et Albert Camus. S'est attesté en Algérie en 1948. Les massacres de Sétif et la répression qui a suivi dataient d'avant, et les condamnations contre les militants de Messali Hadj pleuvaient, et Camus constamment a défendu, par exemple le 14 juillet 1953, après que la police a tué 7 Algériens dans une manifestation le 14 juillet 1953, ceux qui s'engageaient pour la réforme de l'Algérie ou la transformation de l'Algérie.
Oui, Camus, dès sa jeunesse, est extrêmement critique de l'État colonial français. Il souhaite des réformes profondes et radicales. Il souhaite la fin du colonialisme. Et même si ses opinions seront différentes de celles du FLN, il ne souhaite pas une Algérie indépendante telle que le FLN la conçoit. Il défendra systématiquement les membres du FLN ou d'autres organisations nationalistes qui seront condamnés à mort ou condamnés tout court.
Mais là, nous sommes avant que le FLN n'apparaisse au grand jour, avec l'insurrection de novembre 54, quelques mois auparavant, en juillet 1954. Libérons les condamnés d'outre-mer.
Peu après la guerre, en 1946, je crois, reçu à Tlemcen par les dirigeants d'un mouvement nationaliste arabe, voici ce que j'entendis à peu près et qui me fut dit sans phare. Nos pires ennemis ne sont pas les Français colonialistes. Ce sont au contraire les Français comme vous. Car les colonialistes nous donnent une idée révoltante mais vraie de la France. Et vous, vous nous en donnez une idée trompeuse, parce que conciliante. Vous nous affaiblissez dans notre volonté de lutter. C'est vous qui nous nuisez le plus. Je n'avais pas grand-chose à répliquer à ce petit discours. L'intelligence opprimée va droit à l'évidence. Après tout, me disais-je, quoi de plus évident ? Nous autres Français libéraux prêchons la fraternité, et pendant que les libéraux arabes nous écoutent avec attendrissement, les voilà matraqués. Pourquoi raconter cela ? Parce que le jour où ce sentiment a surgi dans la conscience politique arabe, de ce jour-là le terrorisme était né. Le terrorisme naît de la solitude, de l'idée qu'il n'y a plus de recours, que les murs sans fenêtres sont trop épais, qu'il faut les faire sauter. C'est pourquoi, selon moi, l'heure n'est plus au discours sur la fraternité, mais aux actes positifs. L'action pour l'amnistie en est un, à la condition qu'elle ne fasse pas silence sur le terrorisme et qu'elle en explique au contraire les origines, tout en condamnant les conséquences. Sauver des vies et des libertés du côté arabe revient à épargner des vies du côté français et à arrêter par le seul moyen qui nous soit offert la surenchère dégoûtante entre les crimes. C'est ainsi que nous aiderons non pas à la fraternité, puisque ce mot donne à rire aujourd'hui, mais à la survie de deux peuples et aux chances de leur entente future. Toute autre politique n'amènera pas seulement la mort inutile de Français et d'Arabes, elle accentuera la solitude arabe et la solitude française et le malheur de deux peuples.
Ce que le FLN en train de naître comprenait parfaitement, qui a choisi de tuer le 1er novembre 1954 des innocents dont la mort ne pouvait que provoquer l'indignation.
C'est vrai, avec ce texte « Terrorisme et amnistie » de 1954, Camus prend la parole après 10 ans après la libération, alors que des condamnés d'outre-mer de partout, si j'ose dire, de Tunisie, des Malgaches, des Marocains, des Algériens, pourraient bénéficier d'une amnistie. Et il propose une explication qui n'est pas une justification du recours à la force du côté des nationalistes. Donc il y a déjà ce point intéressant de la distinction entre explication et justification. Et deuxièmement, il commence à articuler cette critique du terrorisme et de la violence qui s'installe outre-mer et en Algérie bientôt, qui est une violence pour lui mimétique. C'est-à-dire que la violence de l'un des nationalistes conduit à la répression de l'autre dans un cycle de violence sans fin. Et c'est à ce cycle qu'il souhaite mettre fin d'un point de vue moral, parce qu'il faut sauver des vies, parce que l'innocent doit toujours être protégé, et l'innocent pour Camus c'est le civil. Et par ailleurs aussi d'un point de vue assez pragmatique, finalement il y a une sorte de réel politique chez Camus qui dit que finalement l'amnistie permettra l'établissement d'un apaisement et éventuellement une sortie de conflit.
Les choses ensuite ne vont que de mal en pis, on s'en souvient. Mais au début, en 54, en 55, encore au début de 56, par pragmatisme, Camus participe au débat, très, très largement, notamment dans l'hebdomadaire L'Express, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, et dans le soutien à la campagne électorale de Pierre Mendès France pour les élections législatives du début de 1956. Et c'est dans cette perspective qu'il imagine un appel à la trêve civile. Alors, dans votre anthologie à venir, vous publiez le texte de cet appel à la trêve civile. Il dit qu'il n'est pas un homme politique, mais que c'est le rôle parfois de l'écrivain. C'est même son métier que de se porter sur des fronts. Et puis il a vécu le malheur algérien dans sa vie personnelle. Alors une réunion est préparée. Dites-nous un mot des préparatifs de cette réunion. Avec qui ils se font ?
Les libéraux d'Algérie sont ceux qui entourent Camus et qui l'encouragent à prendre la parole lors de cet appel pour une trêve civile. Il s'agit, et c'est très important pour Camus, d'un effort collectif et d'une initiative multipartite. Il veut qu'il y ait là des représentants de tous bords, des nationalistes, des modérés, des libéraux d'Algérie, pour demander une sorte de degré zéro d'humanité qui serait la protection des femmes, des enfants, des civils de tous bords, musulmans, arabo-berbères, pieds noirs, d'où qu'ils soient. Mais cette espèce de protection minimale des civils est ce qu'il exige dans un cadre collectif.
Mais parmi les nationalistes qui ont d'ailleurs depuis peu repris contact avec lui, il est Amar Ouzeghan, dont il sait qu'il est déjà passé au FLN ou pas ?
C'est assez ambigu, peut-être qu'il s'en doute, mais Ouzeghan ne déclare pas officiellement du tout son affiliation au FLN à ce moment-là.
Alors là, voici le récit face à l'écrivain Jules Roy, Julius, de cet après-midi très difficile de janvier 1956.
Amar Ouzeghan, comment est-ce que vous accueillez sa proposition ? Vous qui vous associez à cette proposition de trêve, alors qu'Albert Camus ne sait pas que vous êtes l'un des dirigeants du FLN.
Oui, c'est vraiment une situation paradoxale.
Mais parce que vous aviez également la volonté d'essayer d'obtenir cette trêve civile ?
En réalité, non. L'idée était juste. L'idée était le rêve d'un philosophe. Mais en tant que réaliste, nous n'y croyons pas beaucoup. Vous voyez ?
Pas du tout, vous voulez dire ?
Nous ne croyons pas du tout. Nous étions des hommes partisans de la lutte armée.
Le 28 janvier 1956, lorsqu'Albert Camus fait cette conférence au Cercle du Progrès, oui. sous la protection du service d'ordre du FLN,
oui.
et alors qu'à l'extérieur, il y a des manifestations d'ultra-européens
oui. Qui criaient à bas Camus, à mort Camus, à mort Mendès France.
Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas été manipulé et dupé?
C'est nous qui avons profité de la circonstance. Non pas pour le manipuler, pour lui dicter une attitude quelconque, mais on a profité de cette situation pour essayer de convaincre les partisans de la trêve civile, c'est-à-dire les partisans d'une guerre moins cruelle, vous voyez, que l'entente n'était pas possible.
L'entente n'était pas possible,
il n'y croit plus, en tout cas, Ouzgan, à cette époque, non plus que Ferhat Abbas, devenu aussi dirigeant du FLN.
Oui, et dans sa correspondance, la correspondance de Ouzgan avec Charles Poncet, qui est un des organisateurs également de l'appel à la trêve civile, la même question est posée, et la même réponse, en quelque sorte, est formulée par Ouzgan, qui dit qu'il s'agit d'une tactique révolutionnaire pour lui à l'époque. Il ne croit pas à la trêve civile, mais qu'il essaye de détacher, il utilise ce verbe, détacher les minorités libérales et juives, ce sont ses mots, et de les rallier d'une manière ou d'une autre à la cause nationaliste.
Il ne parlera plus qu'en privé, il interviendra toujours pour demander des grâces ou des amnisties. Et il est un livre important, le premier homme qui existait sous forme de manuscrit inachevé dans la sacoche qu'on a retrouvée non loin de la face Helvéga où Camus a trouvé la mort il y a 60 ans. Dans ce livre, il raconte un attentat. Sa mère est là, il est en visite chez elle, il va vers la fenêtre. Sa mère dit « mais je peux plus courir et je ne veux pas partir non plus ».
Absolument, et c'est un résumé, un concentré de la tragédie algérienne pour Camus, et c'est une scène aussi où s'esquissent des solidarités entre un commerçant pied noir et une famille arabo-berbère qui déambule dans la rue et qui sera protégée par ce commerçant malgré des cris autour qui sont des cris racistes.
Et puis, dans votre anthologie, paraîtront les échanges avec Jean Sénac, un disciple qui a choisi le camp du FLN avec Jean Amrouche. Dans tous les cas, aucune cause, même si elle était restée innocente et juste, ne me désolidarisera jamais des miens et d'abord de ma mère, qui est la plus grande cause que je connaisse au monde. Il n'y aura pas d'article islamisme dans votre anthologie?
Il n'y aura pas d'article islamisme, mais on peut peut-être réfléchir à l'islamisme contemporain tout en reconnaissant qu'il est assez différent des... celui qui mène au terrorisme, des terroristes que Camus a connus, une certaine absolutisation des valeurs, le recours à la force crue, ce sont des choses que Camus dénonçait et qui peuvent continuer à nous faire réfléchir.
Ève Morizy, bonjour, c'était la transition avec l'émission de Fabrice Drouel.
Bien sûr.
C'est aussi l'anniversaire de la tuerie de Charlie demain.
Absolument, Charlie, n'oublions pas Montrouge et la porte de Vincennes, c'est 3 jours qui ont rebaptisé la France, 7, 8 et 9 janvier 2015.
Dans l'équipe de la marge de l'histoire, Ininka Legulesco, Juliette Gou, Franck Olivard et Kevin Pelot.